Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Quel groupe de rock aurait été capable d'écrire, composer, enregistrer et sortir 4 chefs-d'œuvre en 16 mois? En fait, seul Creedence Clearwater Revival a été capable d'un tel exploit. Puisque après un premier album éponyme, sorti en 1968, l'année 1969 a vu paraître successivement Bayou Country en janvier, Green River en août et Willie and the Poor Boys en novembre. Une productivité qualitative et quantitative tout bonnement incroyable pour l'un des groupes US majeurs de la fin des années 60. Je suppose que pour beaucoup d'entre vous, ce nom de groupe n'évoque pas grand-chose. Pour les moins de 50 ans, qui a entendu parler des chansons de ce groupe? Qu'est-ce que Creedence Clearwater Revival? Qu'est-ce que c'est que ce nom de groupe, sinon un de plus dont l'appellation est étrange et apparemment ne correspond à rien de clair? Pourtant, tout le monde, j'en suis sûr, a entendu parler de Proud Mary, Bad Moon Rising, Fortunate Son, I Heard It Through the Grapevine, Lodi, Born on the Bayou, Suzy Q et tant d'autres. Autant de hits issus d'une époque révolue, fleuraront bon l'Amérique d'antan, celle des 60s, du Vietnam, du Mississippi, avec ses bateaux à roues, les plantations de coton, etc., etc. Bref, la source d'inspiration du blues, mais ici mêlée adroitement à un rock simple et pourtant très efficace, le gag est d'imaginer un groupe de la Nouvelle-Orléans, alors qu'il s'agit en fait d'un quatuor californien venant d'El Cerrito, près de San Francisco, qui n'a jamais mis les pieds en Louisiane. Si beaucoup de groupes de rock ont connu des débuts laborieux, rares sont ceux à avoir autant galéré que Creedence Clearwater Revival. Leur premier album, Creedence Clearwater Revival, représente l'accès tant espéré à la gloire, mais avant quelle histoire? Avant cela, en effet, 9 ans de galère. Du groupe The Blue Velvets, créé en 1959, groupe de rhythm and blues réunissant 3 camarades lycéens d'El Cerrito en Californie, John Ferriotti à la guitare au chant, Stu Cook, basse et piano, Doug Clifford à la batterie. Et l'avènement en 1968 de ce trio, auquel viendra se joindre le grand frère de John, Tom Fogerty, à la guitare rythmique. Et tout s'arrange pour eux avec le rachat de la maison de disques Fantasy par un dénommé Soul Sense, un fondu de jazz qui les connaît, croit en eux et fait signer les Collywogs, nom qu'ils avaient à l'époque, mais en exigeant d'eux le changement de nom. John suggère Creedence Clearwater Revival. Creedence Newbell était enfin une connaissance de John Fogerty. Le deuxième terme, Clearwater, provient d'une pub pour la bière Olympia et d'un vœu pour le renouveau du rock, et c'est pour ça qu'ils ont rajouté Revival. Bref, un nom plus bizarre que Buffalo Springfield ou Jefferson Airplane, comme s'en souvient le bassiste Stu Cook. Ils signent un contrat totalement aberrant qui les contraint à 7 années de servitude et à une production studio délirante. En effet, ils doivent enregistrer plus de 56 titres en 3 ans. C'est absolument délirant. Mais en fait, tant pis, c'est la gloire, elle sera à ce prix-là. Seconde étape, imposée par la maison de disques, attirer l'attention des radios avec la reprise de titres à succès. D'abord, ce fut Suzy Q, dont on vient d'entendre l'introduction. Un rockabilly de Dale Hawkins, sorti en 1956, et arrangé avec des couleurs psychédéliques et agrémenté d'un chorus d'ambiance très Blue Bayou. Puis un deuxième titre, I Put a Spell on You, vieux standard datant aussi de 1956, où la voix de John et sa guitare sont bien évidence, parfaitement soutenues par les autres instruments. C'était I Put a Spell on You par Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. À partir de là, grâce au succès de ces deux singles également parus sur leur album, le groupe a percé. il sortira, durant la seule année 1969, trois autres bijoux, tous albums à succès. Quel meilleur morceau pour ouvrir les hostilités que Born on the Bayou ? C'est celui que je vous propose d'écouter par la suite. Les arpèges doux et coulants de la guitare sont couverts par la voix pugnace et habitée de John Fogerty. Cette voix éraillée qui fait qu'elle crée à chaque fois des merveilles sur chacun de ses titres. Le texte de cette chanson synthétise tout l'imaginaire de Fogerty, le rapport qu'il a à l'Amérique, avec sa fête nationale, le décor populaire, il choisit un patelin complètement paumé du sud, le chien qui aboie, un mystérieux vaudou que l'on traque. Bref, on baigne absolument dans la Louisiane, qu'encore une fois, il ne connaît que très très peu. Une mystique livrée par un auteur totalement habité par ce morceau langoureux qui fleure bon la Louisiane par tous les pores de sa peau. Ambitieux et très exigeant avec lui-même comme avec ses compagnons, John Fogerty compte plus que jamais capter l'air du temps et parler à la jeunesse populaire américaine. Il croit beaucoup à ce message. Depuis peu, il a découvert le Swamp Blues, cette musique des marais de Louisiane, pratiquée par les ancêtres des esclaves noirs de la région. Et il est persuadé qu'en la métissant avec le Rhythm and Blues de Bo Diddley, il parviendra à affiner un style nouveau qui sera propre à son groupe. Et ainsi arriver à séduire encore davantage les masses de jeunes avides de ce type de musique. Là-dessus se rajoute cette mythologie propre au Bayou, au Mississippi, à la Nouvelle-Orléans et à la culture Cajun. Une ambiance si particulière dont Tony Joe White, par la suite, ou Coco Robichaud, seront les héritiers ou les disciples. c'était Born on the Bayou par Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. Keep on jubilant. Dans ce deuxième album, Bayou Country, vient Proud Mary, le hit de Creedence Clearwater Revival, celui que vous avez forcément tous entendu un jour sans savoir que c'était d'eux. En effet, la version d'Ike et Tina Turner a fracassé toutes les têtes des adolescents avec leur version du début des années 70. Côté Creedence, on sent de la douceur, de l'affabilité, beaucoup de sensibilité. Il y a tout ça dans le riff hanté de cette reine fluviale, ce grand bateau à roues qui écume placidement le Mississippi. Mais non, il ne s'agit pas de l'histoire d'une femme fière et malheureuse. C'est une histoire à la Tom Sawyer, courant sur les berges, afin d'essayer de rattraper cette Lady de bois et de fer, fuyant les affres de la ville et coulant sur le Mississippi. Proud Mary, finalisée à l'été 1968, après avoir été conçu sous les drapeaux plus d'un an par John Fogerty, mettra en fait le groupe sur orbite. Proud Mary atteindra la deuxième place des charts US de cette année 1969 et deviendra le plus gros succès de Creedence. Et l'album, quant à lui, accrochera la septième place du Billboard et se placera même en tête du hit parade français. Ce deuxième disque studio assoit les quatre musiciens dans le cœur et l'âme des Américains. Mais je pense aussi des Européens, et ceci en deux temps, d'abord avec Creedence et surtout après avec Ike et Tina Turner, notamment lors de leur tournée remarquable de 1971. L'obsession de John Fogerty conduit quasiment le groupe jusqu'à son point de rupture. En effet, lors de l'enregistrement de Proud Mary, les séances s'éternisent au rythme de choix de production changeant, notamment entre l'hésitation, entre des prises en direct et puis des overtures, c'est-à-dire des rajouts musicaux. Il y a des disputes et John Fogerty continue néanmoins, coûte que coûte, à enregistrer à sa façon, tel qu'il le croit. Écoutez la voix de John Fogerty, elle est charnelle, rocailleuse, ardente, ainsi que le son des instruments, le style de Creedence est en place.
Oh,
C'était Proud Mary par Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. Et nous voilà au mois d'août 1969. On se retrouve après un Woodstock duquel le groupe ressort très déçu. En fait, le Creedence retourne en studio pour préparer le successeur de Bayou Country, forte d'une popularité incroyable aux États-Unis. En réalité, le festival de Woodstock s'est révélé pas du tout adapté à leur genre musical. À une époque où les groupes de la région de San Francisco cherchent leur inspiration dans la consommation massive de drogue, Creedence prend la résolution de ne pas sombrer dans ses travers. John Fogerty n'apprécie pas les longues fresques musicales qui naissent de ce genre de jams, interminables et déstructurées. Et il veut prendre un virage plus dynamique après Bayou Country. La rigueur et l'efficacité des morceaux de rockabilly l'inspirent, et Green River, le nouvel album, va s'inscrire dans cette dynamique. Green River contient deux des plus fameux titres de toute la discographie de Creedence. Le premier, justement, s'appelle Green River, c'est celui que je vais vous proposer d'écouter. Il lance le disque du même nom. Il fait référence à un lieu de vacances qu'aimait fréquenter John Fogerty, adolescent. Et il fait partie, comme toutes les bonnes chansons rock américaines, des titres diffusés encore par les radios rock de nos jours. En outre, il présente la caractéristique des tubes de Creedence. Une intro de guitare seule, puis une intervention musclée de la batterie, accompagnée ou précédée, comme ici, d'une basse, jouant sa partition souvent de façon très indépendante. La guitare rythmique est à la fois discrète, mais indispensable. C'était Green River par Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. Rush on for everyone. Rush on for truth. La deuxième chanson importante de cet album s'appelle Bad Moon Rising. Elle est connue pour être l'une des chansons d'allure joyeuse aux paroles les plus déprimantes qui soient, faisant écho en fait à la guerre du Vietnam et inspirée par le film Tous les biens de la terre, The Devil End, de Daniel Webster. Mais cette chanson a aussi marqué un autre pan de la pop culture complètement différent, en effet celui du football sud-américain. Les Argentins ont en effet repris l'air de Bad Moon Rising pour en tirer plusieurs chants, dont un servant à charrier l'équipe du Brésil. Et cette petite incursion footballistique ne serait pas complète sans préciser que je crois que l'Olympique Lyonnais a fait la même chose il y a de cela quelques années. Bref, la section rythmique de Creedence, avec Doug Clifford à la batterie et Stu Cook à la basse, a souvent paru limitée. Et John Fogerty lui-même avait des doutes sur leur capacité à le suivre sur ses idées, on va dire, futuristes. En fait, il faut savoir que Doug Clifford a bâti tout son jeu en s'inspirant très largement de Ringo Starr, des Beatles, vous rêvez pas. Et John Fogerty va développer son sens de la mélodie grâce à cette rythmique très sûre, très fiable, très solide. Il va pousser cela au maximum dans ce disque, dans ce nouvel album, qui pourtant ne dure à peine qu'une demi-heure. Composé très rapidement, avec une ligne directrice forte, Green River est un modèle d'efficacité, un coup très pur de rock'n'roll. En studio, chaque membre du groupe est décidé à aller à l'essentiel du blues et à l'adapter au rock. Et s'il chante « Wrote a song for everyone », John Fogerty, il est clair qu'il n'est pas du genre à partager les tâches. En témoigne Stu Cook, le bassiste, qui raconte comment la tête pensante du groupe, John, arrivait avec des idées très précises en studio et ne s'appuyait finalement sur les autres membres du groupe que pour des points de détail. C'était Bad Moon Rising de Creedence Clearwater Revival sur Oxy Web Radio. J'ai choisi de vous faire écouter un troisième morceau de cet album, un morceau que j'aime beaucoup et qui, je pense, est moins connu que les autres. En effet, c'est finalement ce qu'il y a de plus fascinant chez Creedence, cette façon de faire de la musique comme d'autres font du billard, en travaillant la précision de chaque geste, en se préparant minutieusement avant d'entrer en studio. Creedence n'est pas un groupe qui fonctionne à la spontanéité ou à l'instinct, mais un groupe qui travaille, tout simplement. Et ce morceau que nous allons entendre, qui s'appelle Lode, est certainement un des plus clairs exemples de ce que je veux dire. De là vient le paradoxe qui entoure un des groupes majeurs dans l'histoire de la musique américaine, qui n'a pourtant rien inventé, ni encore moins révolutionné. Au point qu'aujourd'hui, son nom est très loin d'être le premier à venir dans une discussion autour des groupes qui ont fait date dans la pop musique, parmi les plus mythiques. Green River a ce côté trop parfait pour être vrai, trop lisse pour marquer et pourtant impossible à déprécier. L'écouter, c'est le sentir passer dans sa vie comme un courant d'air. J'ai toujours l'habitude de dire que cet album, quand on l'écoute, on est envahi, on est envoûté, en quelque sorte, par cette musique de Creedence. Ce courant d'air, ou musical, porte en lui l'essence de tout ce que le rock a donné au monde. À défaut de donner quelque chose de soi, Creedence synthétise dans Green River le meilleur de la musique de la fin des années 60. Ce troisième morceau tiré de l'album, appelé Lodé, est une chanson parlant d'un musicien égaré dans un patelin perdu dans le sud de la Californie et qui repense à ce qui lui était arrivé un soir. Un vrai sujet de chanson blues avec une rythmique entraînante malgré la tristesse qui se dégage des paroles même quand on ne les comprend pas. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in a low die again, rode in on a greyhound. I'll be walking out if I go. I was just passing through, must be 7 months or more. Ran out of time and money, looks like they took my friend. Oh Lord, I'm stuck in a c'était Lodé par Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. Et nous voilà en novembre 1969. Willie and the Poor Boys débarquent dans les bacs, fournis pourtant d'une année 1969 qui aura fortement marqué les esprits. La première marche sur la lune, la libération sexuelle, Woodstock, etc. Quant au groupe, tout va bien, même si son passage à Woodstock ne laissera pas un grand souvenir ni au public ni au groupe. En effet, trop de trip fumeux et peu de place laissée à la culture américaine que revendique le groupe. Pourtant, les deux derniers albums du groupe sont des succès populaires remarquables, en dépit d'une concurrence rude et d'une qualité à couper le souffle. Je parle des autres groupes dont j'ai déjà commencé à parler et j'ai pas encore terminé avec l'année 1969. Au sommet de sa gloire, Creedence aurait pu en rester là pour l'an de grâce 1969. Mais c'est mal connaître ce bûcheur acharné qu'est John Fogerty, qui renvoie manu militari tout le monde en studio dès l'automne pour préparer un troisième album de l'année, Willie and the Poor Boys. Et quel beau nouvel album, surtout pour les fans de blues. Rock me in the cradle, in their mold, cotton field back home. Comme à son habitude, quand va paraître un album, le quatuor balance un 45 tours dans les ondes, en bonne et due forme. En face A, Down on the Corner, en face B, Fortunate Son. Mais pas de peau, deux tubes. Les deux chansons passeront exactement de la même façon sur toutes les ondes radio et graviront peu à peu les meilleures places des hit-parades. L'album est d'une qualité rare qui fait hurler les trois comparses de Fogerty, de plus en plus isolés à mesure que son autorité, je parle de celle de John, certains ont parlé d'ego, s'étend et s'accroît. Obsédé par les charts au point de croire le groupe prêt à passer aux oubliettes au moindre faux pas, le leader insiste pour sortir très vite ce nouvel opus. Le batteur Doug Lickford évoque même un gâchis. Il dira « Nous avons brûlé les chansons deux fois trop vite. Si nous avions été plus patients, on n'aurait pas sorti trois albums en un an. » Ce à quoi l'ami John Fogerty répond farouchement « Tout le monde m'a dit qu'il ne fallait pas faire ça, ne pas gâcher des hits potentiels, prendre son temps. Mais regardez les Beatles, regardez Elvis. » Ils faisaient pareil, ils sortaient leurs disques coup sur coup. Argument imparable, il faut bien l'admettre. Voilà donc Willie et ses pauvres gars déballant leurs arguments les plus avantageux d'entrée de jeu. Je vous propose Down on the Corner qui donne l'idée de ce que sera cet album. C'était Down on the Corner de Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. Well, La deuxième chanson du 45 tours que j'évoquais tout à l'heure se révèle un rock politique anti-Nixon et son système de gens privilégiés. Il s'appelle Fortunate Son. C'est l'hymne de l'enfant gâté qui fustige les classes aisées du pays de l'oncle Sam, les soutiens premiers du président en exercice, profitant d'un système duquel seule la classe populaire sort perdante. Car ce sont les pécores chers à Creedence qui sont envoyés au front d'un conflit diligenté par le vote de ces bourgeois dont les enfants, cloîtrés dans les grandes universités du pays, ne se risquent pas à entendre les balles siffler, les bombes détonner et les hommes pleurer leurs camarades massacrés de l'autre côté du Pacifique. Eh bien, il faut se retremper dans cette ambiance de l'époque où, effectivement, la guerre du Vietnam est omniprésente. Et la version de Johnny Hallyday, fils de personne, facilitera encore davantage la découverte de ce groupe par la France. Mais plus que par sa remarquable rhétorique, Fortunate Son brille par une mise en musique explosive et un rig de guitare ciselé mais puissant, parfaitement soutenu par une ligne de basse colossale. C'est du pur Creedence. Maîtrisant à merveille sa voix rageuse, John Fogerty alterne couplets grinçants et assauts de guitare virils et expéditifs. C'est une recette imparable. On retrouve son idée initiale, en fait, de mêler le swamp blues, dont j'ai parlé, qui vient de la Louisiane, au rythme de Bo Diddley, qui est très caractéristique. Et ici, cela fait un assemblage excellent. Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. Comme je le laissais entendre depuis le début, le blues n'est pas loin dans ce dernier album. Continuant de puiser sa matière brute dans le répertoire historique national, Creedence fende deux reprises de Led Belly en bonne et due forme. Cottonfield, aux harmonies splendides, éloquentes et efficientes, et un Midnight Special totalement habité, d'une force vocale remarquable et doté d'arrangements instrumentaux acides, de guitares virevoltant au-dessus d'une mêlée rythmique, au-dessus de la ferveur des Shine a Light on Me très soul. C'est, je pense pour moi, ce morceau qui fait découvrir le blues et m'a fait l'apprécier sans que j'en sois particulièrement vraiment conscient. Toujours seul aux manettes, bien que les membres du groupe soient représentés sur la pochette de Willie and the Poor Boys, sous la forme d'un jug band imaginaire. Cet album majeur de Creedence n'est le fruit que de l'imagination de John Fogerty, et c'est peut-être là qu'on aperçoit les premières limites du groupe. Une année qui aura vu trois albums essentiels, un train de vie éreintant, un succès certes fulgurant, mais tout est réuni pour que la dislocation commence. Et le caractère impétueux du leader John Fogerty y contribue largement. Avec Willie and the Poor Boys, Creedence Clearwater Revival prend doucement le chemin d'une sortie qu'il va pourtant magnifier. Mais on y reviendra une autre fois. Pour le moment, ce que je vous propose, c'est d'écouter ce groupe qui est au sommet de son art. Jusque-là, Creedence Clearwater Revival avait raconté l'histoire de l'Amérique dans ses chansons. Avec ce nouvel album, Willie and the Poor Boys, et en particulier Midnight Special que nous allons écouter, on découvre que finalement, ce groupe a su mettre au devant la culture blues, tant la mêlant avec une version plus moderne, plus rock, et que la jeunesse de l'époque a totalement apprécié et assimilé. Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Midnight special, shine a light on me. C'était The Midnight Special par Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. Walking on the water. Que de chemin parcouru depuis l'époque du Walking on the Water que nous venons d'entendre dans le jingle et qui date d'avant la période Creedence, à l'époque où ils étaient encore les Coolie Walks. Mais en cette fin d'année 1969, Creedence est sur le toit de l'Amérique. John Fogerty peut mesurer avec satisfaction l'ampleur du travail accompli. Son groupe vient d'aligner 3 albums et 4 singles, tous placés dans les cibles du top 10. Les magazines Billboard et Rolling Stone lui décernent le prix d'artiste de l'année. Le musicien, au fait de son inspiration, est en pleine possession de ses moyens. Le succès immédiat de sa formation, après une décennie de galères sous ses anciennes incarnations, lui prodigue un shoot maximal d'ivresse mêlée de soulagement, dopant une prodigieuse poussée créatrice apparemment inépuisable. 2 albums mythiques vont suivre cette trilogie fabuleuse. Cosmos Factory, d'abord, et sa liste de tubes sans aucun déchet, et Pendulum, moins abouti peut-être, au plan du hit-parade notamment, mais qui laisse augurer d'une nouvelle piste d'inspiration, fortement tirée du blues, mais en même temps plus psychédélique. John Fogerty sent qu'il va falloir qu'il change de style s'il veut maintenir son groupe. Mais on y reviendra plus tard, à l'occasion de la sortie et des années concernant ses albums. En tout cas, ils constitueront les vecteurs idéaux pour aller conquérir le vieux continent lors de ce printemps 1970, lequel continent cède très facilement de Rotterdam à Paris, en passant par l'Angleterre, définitivement annexée. Voilà, je vous propose la semaine prochaine de découvrir encore un autre groupe fabuleux, l'Allman Brothers Band, qui sort en 1969 son premier album, qui lui aussi a déjà connu un petit peu le succès, mais très localisé, et en fait va devenir très rapidement un groupe mythique de cette fin des années 60 et surtout au début des années 70. Mais d'ici là, ce que je vous propose, eh bien, c'est de rouler blues en écoutant un bonus, à savoir Proud Mary, enregistré en live à Woodstock, ce qui est un enregistrement assez rare.